Bonjour à toutes et à tous, cinquième numéro de Mémoire Véronaise sur CFM, tous les 15 jours, ce beau rendez-vous présenté par Vincent Besombe. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, on le rappelle, le président du comité Rhodes du Souvenir Français.
C'est ça.
Cinquième numéro de ton émission, Vincent.
Et oui, déjà.
On va rappeler que les quatre précédentes sont à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Elles avaient pour sujet Monseigneur Ginisti, évêque avéronnais qui a été notamment à l'initiative de l'ossuaire de Douaumont dans le nord de la France à l'issue de la Première Guerre mondiale.
C'est ça.
Bon. J'ai bien retenu. Hein,
oh, très bien.
On s'est aussi intéressé au 122e régiment d'infanterie. C'est un petit peu ton sujet favori, j'ai envie de dire.
Ah oui, mais oui.
Puisque tu as écrit un livre, on le rappelle, sur le 122e RI, Vincent.
Alors ça, c'est le troisième sujet.
C'était le troisième,
émission.
Ah oui, entre-temps, on a eu les casernes de Rhodes.
C'est ça, voilà, tout à fait.
Voilà, parce qu'il y a eu trois casernes à Rhodes.
Trois casernes militaires.
Militaires, oui, on ne confond pas avec les pompiers.
Non, non.
Tout à fait, tu as raison. Et lors du précédent numéro, on s'est intéressé au carré militaire du cimetière de Rhodes. Un rendez-vous qui était très intéressant, lui aussi. Alors, cette semaine, pour ce numéro 5 de Mémoire Véronaise, Vincent, tu as décidé de nous parler, enfin, tu avais annoncé ça il y a 15 jours. Le sujet, c'est le clairon Roland.
Voilà, tout à fait.
Alors, attends, parce que moi, Roland, le clairon, est-ce qu'on pense au même? Moi, je pense au mec, à un moment donné, au Moyen-Âge.
Ah non, ça, c'est. Oui, Roland de Roncevaux. Non, ça, c'est son. Là, il avait un corps.
Ah, mais, c'est
voilà,
pas pareil.
Il sonnait le corps.
Ah ouais, la différence entre le corps et le clairon.
Le corps, c'est. À l'époque, c'était. Ça avait la forme. Alors, ça pouvait être un corne, ou ça pouvait même être mettre en terre cuite ou en métal. Mm-hmm. Ça a vraiment la forme d'une corne, comme une corne de vache. Mm-hmm. Puis, c'est. On peut faire qu'un son avec, hein. Le clairon, ben, c'est l'instrument des fanfares, notamment pour l'infanterie, hein, pour sonner
la charge,
la retraite, la soupe, le lever des couleurs, etc.
Vincent, question piège.
Oui, allez, vas-y.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, peut-être nous faire la musique du clairon quand il appelle à la soupe?
La soupe, oui, ça fait ta 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 ta.
Super. Voilà. Bravo, merci. Donc ça veut dire
5 ans de musique à la Diane Rouergat, ça laisse des traces, hein.
Bravo, en tout cas, bravo et merci Vincent. Bon, oui, alors le clairon Roland, donc c'est pas Roland du Moyen-Âge, c'est
non,
quoi cette histoire?
C'est Guillaume.
Ah.
Guillaume Roland.
Guillaume Roland?
Guillaume. Voilà, son prénom Guillaume. Mm-hmm. Son nom de famille Roland.
Avec deux L.
Avec deux L, voilà, tout à fait.
OK.
Alors, je suis désolé, j'en parlerai tout à l'heure de ce fameux clairon Roland. Je vais, en tant qu'historien, j'aime bien contextualiser les choses,
ouais,
remonter un petit peu dans le temps pour mettre un peu les cadres que les gens puissent un petit peu se repérer plus facilement. En fait, ce brave clairon Roland, lui, il est originaire du Nord Aveyron, il est originaire de l'Aubrac. Mais là, tout de suite, nous allons partir en Algérie.
Mmh. En quelle époque?
Alors, on va commencer assez tôt, on va commencer au XVIe siècle.
Oh là là!
En Algérie, oui, je remonte très très tôt. C'est un peu comme les casernes, je remontais, rappelle-toi, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, pardon.
Donc au XVIe siècle, l'Algérie, bon, il n'y avait plus les Romains, mais c'était pas encore français.
Non, non, du tout. Dans la Méditerranée, en fait, il y avait pas mal de problèmes parce que...
Les pirates?
Les corsaires, oui, corsaires. Ouais. Là, on parle plutôt de corsaires puisque le D d'Alger, c'est l'équivalent d'un calife, un petit roi local, quoi, entre guillemets, récupérer une partie de l'argent. Les pirates, ils gardent tout pour eux. Les corsaires, on le rappelle, ils font ce qu'on appelle de la course, c'est-à-dire ils ont l'autorisation de quelqu'un.
Voilà, c'est la piraterie légale.
C'est la piraterie, légalisée par un État ou par un roi ou là, ce qui nous concerne, un calife. Donc la Méditerranée à cette époque-là était vraiment très dangereuse, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Il y avait énormément, c'est ce qu'on appelait les corsaires barbaresques.
Oui,
barbaresque. tout le nord de l'Afrique, on appelait ça les côtes barbaresques à l'époque.
Bah dans La Folie des grandeurs.
Oui, tout à fait.
Le film avec tout à fait. Finesse,
tout à fait. Il est vendu comme esclave justement voilà aux barbaresques.
T'as vu un peu mes références?
Ah, c'est bien, non, mais c'est bien, c'est
la folie des grandeurs.
Oui, c'est bien. L'humour fait aussi passer pas mal de choses. Mmh. Alors, voilà, beaucoup de problèmes, beaucoup de bateaux pillés, les matelots vendus comme esclaves. Il y a un esclave qui est très connu d'ailleurs, c'est l'aumônier général des galères sous Louis XIV, qui est devenu plus tard Saint-Vincent de Paul, qui a été vendu comme esclave et qui a été racheté après par un Français. Mais alors lui, c'était en Tunisie au XVIIe siècle. Donc voilà, très, très, très problématique. Ensuite, pendant la Révolution française, la France, donc la République, fait venir beaucoup, beaucoup, beaucoup de blé, on manquait de blé, d'Algérie, créant une très, très grosse dette. La France.
On avait déjà une dette à l'époque.
Et oui, une dette à l'époque de la Révolution. La Révolution a eu du mal un petit peu à régler cette dette. L'Empire aussi, on, comme d'habitude, on laisse traîner les choses. on arrive sous la Restauration. Mmh. Le roi Charles X, le roi Louis XVIII. L'ambassadeur de France va se retrouver en face de ce fameux dé d'Alger. Et là, il va y avoir une affaire que l'on a appelée l'affaire de l'éventail. Justement, le dé d'Alger s'impatiente un peu de lui voudrait bien récupérer un peu d'argent.
Ouais,
ça se passe mal. Et là, il va gifler l'ambassadeur de France avec son éventail. Alors, le roi Charles X, ça va lui servir de prétexte pour envahir l'Algérie. Oh. Il va envahir l'Algérie en juin 1830. Je rappelle, lui va abdiquer début août 1830, parce que l'été 1830, c'est la fameuse révolution de 1830, mm-hmm. où on chasse les Bourbons pour et c'est l'arrivée du roi Louis-Philippe, le roi républicain, le roi des Français. Mmh. Donc voilà, l'occupation française en Algérie commence en 1830 suite à ce soufflet, suite à ces corsaires aussi, suite à cette dette d'argent. Il faut voilà recontextualiser parce que tout ce qui va nous intéresser avec le Clermont-Roland va se passer en Algérie pendant une très 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 longue période qui va occuper toute la dernière partie du 19e siècle, qui est la pacification de l'Algérie.
D'accord. Voilà. Alors pacification, je sais pas. Enfin, des fois, pacification, ça passe par tuer des gens.
Là, clairement.
Ou en enfermer un certain nombre.
Non, là, clairement, oui. Ça s'est pas passé.
Oui.
On était dans une période où, en fait, on rigolait.
Pas trop.
Absolument pas.
Voilà.
Je rappelle les manifestations, notamment à la fin du 19e siècle, des mineurs dans le nord de la France, mmh. où ça se réglait avec des charges de cavalerie lourde.
On tirait dans la foule.
À coup de fusil ou à coup de sabre. Mmh. Donc, ouais, c'est une époque où on plaisantait pas trop avec ce genre de choses. Mmh. Je rappelle aussi, tu as parlé du 122e régiment d'infanterie. Le 122e, à l'époque où il était à Montpellier, en 1871, lui aussi sera envoyé en Kabylie pour réprimer justement une insurrection. Mmh. C'est marqué sur son drapeau, toutes les citations. Il recevra une citation justement où c'est marqué sur le drapeau Kabylie 1871.
D'accord.
Voilà. Alors donc, nous voilà en Algérie. On a planté le décor. Je vais quand même vous parler du Clermont-Roland.
Ah bah oui.
Quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse.
Voilà.
Alors Guillaume Roland, lui, il est né sur les monts d'Aubrac. Mmh. Il est né le 18 septembre 1821 au hameau de la Buffière. Alors le hameau de la Buffière, c'est très très proche du Cantal. C'est sur la commune de Lacan. Avant de partir à l'armée, il était vaché. Aux États-Unis, on dirait cowboy.
Cowboy,
ça fait un peu plus voilà des cowboys. On a des cowboys dans le Nord Aveyron, on appelle ça des vachers. mais si on va par là, c'est la même chose.
Oui, hein, oui.
Sans les revolvers qui vont avec. En 1841, c'est l'année des 20 ans.
Les siens.
C'est l'année de ses 20 ans.
Ah oui,
j'ai dit qu'il était né en 1821.
Oui, bah, t'écoutes rien. Hein.
Donc c'est l'année des 20 ans. L'année des 20 ans, pour toi, ça...
Ah bah, je peux pas raconter s'il est racontable à la radio, mes 20 ans.
Ah oui, non, ah, mais non. Pas tes 20 ans, mais en général, à l'époque, ça te fait penser à quoi?
Les 20 ans à l'époque?
Oui.
Bah non, je sais pas. Il y a
service militaire.
Service militaire, je n'osais pas le dire.
Et oui, service militaire. Ouais. C'est ce qu'on appelle la classe. C'est l'année des 20 ans. Mmh. Alors, il est envoyé à La Guiole. Il est envoyé à La Guiole pour participer au tirage au sort. À l'époque, le service militaire, jusqu'en 1905, on avait un tirage au sort.
Ah, pour y aller ou pas?
Pour y aller ou pas.
Ah, c'était plus pratique que de chercher des trucs pas possibles pour être réformé.
C'est ça, c'est D'accord. ça, c'est ça. Mais tu vas voir, c'est encore mieux. C'est encore mieux de chercher des trucs pas possibles.
Ouais.
Parce que, déjà, c'est chiffre pair ou chiffre impair.
Ouais.
Suivant les années. Donc si tu tires, si c'est l'année chiffre pair et que tires un chiffre impair, ben, t'y vas pas. Et même si tu y vas, il y avait de disponibles des remplaçants.
Oh,
mais... C'est-à-dire que, alors attention, là on est au début des grandes transactions financières entre familles. Eh bien, il y avait des gens qui étaient sur place et qui se proposaient, qui avaient déjà fait l'armée, qui avaient déjà fait le service militaire. Et en fait, ils se louaient pour aller. C'était légal, moyennant une certaine somme d'argent, qui à mon avis devait être une belle somme d'argent. Mmh. Ils pouvaient se louer pour partir au service militaire
à la place d'un autre,
à la place de l'intéressé.
D'accord.
Voilà.
Eh ben.
Le jeune Guillaume Roland va tirer le numéro 24. Alors, comme on me l'a rappelé, c'est un héros, hein, le Clermont-Roland, on va le voir après.
Mm-hmm.
S'il avait tiré le 23 ou le 25, ben, on n'aurait jamais entendu parler
de lui. Il serait resté chez lui,
sur
l'Aubrac, cowboy.
Simple cowboy de l'Aubrac. Voilà, tout à fait. Donc, il part à l'armée. Et il est affecté au 8e bataillon de chasseurs à pied, qu'on appelait aussi les chasseurs d'Orléans. Parce que c'est le duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe, qui a créé les chasseurs à pied.
D'accord, ça n'existe plus ça, dans les régiments de chasseurs à pied, on n'en a plus en France. Hein. Chasseurs alpins, on a
c'est un bataillon. Chasseurs à pied, si, on en a encore.
Ah bon?
Ah ouais. Chasseurs alpins, chasseurs à pied. À l'époque, on avait aussi, et toujours maintenant d'ailleurs, sauf qu'au lieu d'avoir des chevaux, ils ont des chars, on a aussi chasseurs à cheval. Ah, oui. Voilà, il y a toute une série
de... cavalerie blindée.
Cavalerie blindée.
Ouais, voilà. J'étais dans la cavalerie blindée, moi.
Ah, bien.
Oui.
Dans les boîtes de conserve.
J'étais trop grand pour rentrer dedans.
Oui.
Donc j'étais à l'état-major. Mais bon,
ah c'est pas mal, c'est mieux, c'est mieux. Pour toi c'était mieux.
Pour moi c'était pas mal. Ouais.
Voilà. Alors donc il part au 8e bataillon de chasseurs d'Orléans, donc chasseurs à pied, et il est envoyé en Algérie. Mm-hmm. Voilà, pour la pacification de l'Algérie. Je rappelle donc on est en 1841. Et donc cette fameuse bataille qui nous intéresse, là où il s'est distingué, la bataille qu'il a fait connaître, c'est la fameuse bataille de Sidi Ibrahim.
Ah oui, on revient au Sidi Ibrahim, tu en avais parlé il y a 15 jours.
Eh ben c'est pour ça.
Je t'avais dit,
c'est pour aujourd'hui.
Sidi Ibrahim, pour moi c'est du vin.
C'est du vin.
Il y a du rouge, il y a du rosé.
Mais aussi,
je crois pas du vin blanc.
Et c'est aussi une bataille.
D'accord. Mais sinon c'est une ville, c'est un village, c'est quoi?
C'est un lieu. C'est un lieu, en fait, on va en parler, où se trouve un marabout. Alors marabout, attention, il y a trois marabouts. Il y a l'oiseau.
Ah oui, d'Afrique, l'oiseau de, oui,
qu'on appelle le marabout.
Avec un gros bec énorme.
Alors, un corps un peu avec les couleurs de cigogne.
Ça ressemble à rien.
Une tête complètement pelée, comme s'il s'était bagarré pendant trois jours avec les copains. Mmh. Et un bec, voilà, un énorme bec, un peu charognard comme animal. Mmh. Il y a le marabout aussi, dont on voit souvent la publicité sur les journaux. Hein,
Tu veux trouver fortune, amour.
Si tu veux, amour, fortune, prestige, appelle le marabout.
Oui.
Et il y a aussi donc les marabouts, en fait, chez les musulmans,
oui,
ce sont des tombeaux de personnages saints. Donc, en général, ils sont perdus. On en voit souvent hein, quand on voit des reportages ou quand on va là-bas, perdus
dans des endroits isolés,
en pleine nature, désert, un petit peu isolés. Mm-hmm. Ce sont des tout petits édifices carrés, blancs, avec un dôme. Un marabout, c'est ça. Comme. Et donc, le lieu-dit de ce marabout, c'est le lieu-dit donc de Sidi Ibrahim. Alors, la bataille de Sidi Ibrahim, elle va se dérouler du 23 au 26 septembre 1845. Les Français vont arriver dans les années 30 à réprimer un petit peu
Les contestations.
Les contestations. Il y aura quand même, je vous l'ai dit, tout au long de la deuxième partie du 19e siècle, des révoltes, des batailles, etc., etc. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est l'émir Abdelkader. Mm-hmm. C'est un nom, quand on connaît l'histoire, qu'on entend parler assez régulièrement. Lui va être chassé d'Algérie. Les Français vont réussir à le chasser et il va aller se réfugier au Maroc. Et en 1843, il décide de revenir. Les Français sont plus ou moins au courant. Donc une petite troupe de 426, c'est précis, Français, quitte la garnison de la ville côtière de Djemaa Gozawat.
Bien.
Voilà. Donc 426 Français qui quittent cette garnison le 21 septembre pour essayer d'intercepter la troupe de l'émir Abdelkader. Ils vont établir un campement à peu près à 19 kilomètres au sud-ouest de cette ville, pleine campagne, et très rapidement, ils vont se faire attaquer par l'émir. L'émir, alors, on estime à peu près les troupes de l'émir à 5000 guerriers, ouais, avec pas mal de cavaliers. Mmh. Donc, autant dire que le rapport de force...
Sur 1 pour 10, quasiment.
C'est ça, c'est ça. L'attaque se déroule le 23 septembre à 6h30 du matin. Et on estime que 3 heures après, c'est-à-dire vers 9h30, à peu près la moitié des soldats français ont été massacrés.
Tués. Tué. Pas blessé.
Alors, tué, carrément. Avec également 80 prisonniers qui vont pour la plupart mal finir, dont le fameux Clairon Roland.
D'accord.
Alors, les hommes qui restent vont se réfugier. Donc, ça va être vraiment un véritable carnage. Hein. Il reste en fait 86 hommes. Mm-hmm. Ils vont se replier à 3 kilomètres de leur campement et ils vont se replier sur ce fameux marabout. Mm-hmm. Alors, ce marabout est assez pratique puisqu'en général, les marabouts sont
un peu en hauteur.
Un petit peu en hauteur, voilà. Et ils sont entourés d'un petit muret.
D'accord. Oui.
Donc, ce qui va être pratique pour se protéger de l'attaquant. Il va y avoir des charges. Ils vont résister 3 jours. Il y aura des témoignages des survivants qui assez impressionnants. 3 jours dans un milieu assez désertique. Je vais être un peu cru, excusez-moi, mais à être obligé. Le seul moyen de s'abreuver, c'était de boire leur propre urine ou de boire l'urine des chevaux. Mmh. Ça, c'est des choses, malheureusement, dans l'histoire qu'on retrouve. Quand la citadelle de Douaumont a été attaquée à Verdun, la citadelle de Vaux, pardon, pas Douaumont, à Verdun a été attaquée, mais pareil, plus du tout d'eau, que faire? Donc voilà, on arrive à des extrémités pas très amusantes. Mmh. Abdelkader va envoyer charge sur charge, les Français vont réussir à résister, ils vont, par 3 fois, Abdelkader va demander aux Français de se rendre, à la 3e fois, on lui fera une réponse. Alors, je vais être encore cru, excusez-moi. Merde pour Abdelkader. Les chasseurs d'Orléans se font tuer, mais ne se rendent pas. Voilà, donc ça a le mérite d'être clair. Mm-hmm. Il va s'impatienter. Il va amener un capitaine, le capitaine Dutertre, qui a été fait prisonnier. Il va lui ordonner de demander à ses soldats donc de se rendre. Il va refuser. Abdelkader va décapiter le capitaine et va planter sa tête sur une pique bien en vue des Français qui s'étaient réfugiés à Sidi Ibrahim. Le clairon Roland, voilà, c'est à lui. Le clairon Roland, lui aussi, c'est son moment de gloire. On va lui demander de sonner la retraite. Il va sonner la charge. Il va sonner la charge assez courageusement. Et je vous rappelle que quelques minutes avant, un de ses capitaines vient de se faire décapiter sous ses yeux. Et il y a la tête toujours plantée sur une pique à côté. Donc, très, très courageux. Les soldats ne vont pas se rendre. Hein. Ils vont finir par réussir à s'extirper de ce marabout en formant un carré. La méthode du carré
des Romains,
de la garde impériale aussi sous le Premier Empire, c'est assez efficace. Et ça permet au centre du carré les blessés de pouvoir les protéger. Ils vont réussir à s'extirper en étant toujours attaqués et ils seront massacrés un petit peu plus loin.
Pour
la plupart.
Au final,
en grande partie.
Ah ouais. Et alors le clairon Roland, lui, il va s'en sortir ou
Ah, le clairon Roland, il va s'en sortir.
Ah.
Le clairon Roland, je vous rassure, je voulais garder le meilleur pour la fin, mais bon, puisque t'es pressé, il s'en sort.
Non, mais je suis inquiet. Oui, il s'en sort.
C'est normal. Alors le bilan de Sidi Ibrahim, et après on parlera du clairon Roland, de ce qui est devenu le clairon Roland. 400 morts.
Français.
Oui, je vais parler des Français parce que côté algérien, on a aucun chiffre, mais vraiment juste une estimation de départ d'environ 5000 hommes. Mais vraiment environ
à la louche,
une grosse bonne louche. Donc 401 morts, dont 85 prisonniers qui seront massacrés au Maroc en 1846, donc un an après. On va avoir 25 survivants. Donc sur ces 25 survivants, 4 qui ont réussi à s'échapper au début des combats, 4 prisonniers au Maroc qui vont réussir à s'évader, dont le clairon Roland. Voilà, il fait partie de ces 4 prisonniers au Maroc qui s'échappent. Bien joué. Mais on va voir comment il va s'échapper. Oui. Et 6 prisonniers libérés au Maroc.
Ah, quand même. Il y en a qui ont été libérés.
Oui, mais enfin libéré, je sais plus trop. Le gouvernement le dit jamais, mais si ça se passe toujours pareil, mais libéré contre forte rançon.
Ah d'accord.
Voilà.
C'est pas.
On en a marre. Vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Également, 11 survivants des combats de Sidi Ibrahim qui eux réussiront à regagner les lignes françaises.
D'accord.
Voilà. Alors, Sidi Ibrahim, c'est un nom qui est resté même aujourd'hui dans l'armée.
Oui.
Faire Sidi Ibrahim, ça veut dire remplir une mission jusqu'au sacrifice, s'il faut que sacrifice s'il y ait. Voilà. Faire la Sidi Ibrahim, c'est une phrase qui est toujours connue dans l'armée. C'est une très grande fête aussi, c'est la fête des chasseurs qui a lieu chaque année au mois de septembre pour honorer justement cette bataille. Roland, lui, donc, est fait prisonnier au Maroc. Il est vendu à une famille de Marocains. Ce qui se raconte, C'est lui qui apparemment le racontait sur les plateaux d'Aubrac quand on venait l'interroger. Mmh. Pour s'échapper, il a dû assassiner la famille qui le retenait.
Ah, voilà. Oui, quand même.
Oui, quand même. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été sans peine.
Non.
Il a réussi à rejoindre les Français, rentrer en France, etc. Alors, de retour sur l'Aubrac, mmh. sur ses chers pâturages d'Aubrac, lui ne retournera pas garder les vaches. Il va devenir garde forestier au village d'Aubrac.
D'accord.
Donc une bonne situation.
Une bonne place, ouais.
Héros de guerre, il recevra la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1846, mmh. avant de rentrer en France. Et il y aura une très très grosse fête à Lacan. On retrouve d'ailleurs énormément de cartes postales, énormément d'articles dans les journaux et les revues de l'époque. En 1913, le général de Castelnau, qui lui aussi est un éminent Aveyronnais, hein, héros de la Première Guerre mondiale, le 31 août 1913, il va venir décorer une nouvelle fois le Clermont Roland en lui donnant la croix d'officier de la Légion d'honneur.
Ah, mais il n'était pas mort, hein, en 1913, le
Non, il est mort en 1915.
Ah ouais, parce qu'il commençait à être âgé, là.
Ah, il commence à être âgé.
D'accord.
Il meurt en 1915 à l'âge de 94 ans.
Ah bah quand même, oui, bah voilà. C'est bien, dis donc, une vie bien remplie, lui.
Bien remplie. Ouais. Alors, si, chers auditeurs, si vous êtes intéressés par le Clermont Roland, c'est passionnant, ouais. Hein, moi, ça m'a vraiment passionné, où on trouve beaucoup de choses, notamment sur Internet. Et si vous voulez aller visiter nos très beaux pâturages d'Aubrac,
oui.
Moi, je vous le conseille, il y a à Lacan, il y a un petit musée qui est vraiment très très sympa. Moi, je voudrais vraiment remercier Monsieur Rouquette, qui est l'ancien maire de Lacan, qui est à l'origine de ce musée. Il a créé ce musée en 2004. Il fait un boulot mémoriel vraiment extraordinaire. Je tiens vraiment à le remercier et à lui dire merci en fait pour tout ce qu'il fait, hein, à le féliciter. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment intéressant. Le musée est à la sortie de Lacan. En direction de Chaudes-Aigues. Mmh. Je vous rappelle, on n'est vraiment pas loin du Cantal. Mmh. Vous avez le cimetière dans lequel se trouve la tombe du Clermont Roland.
D'accord, encore.
Juste à côté du cimetière, vous avez une petite chapelle, la petite chapelle du cimetière, et c'est dans cette chapelle que se trouve le musée du Clermont Roland. Vous avez également dans le village la maison où a habité le Clermont Roland. Alors pas là où il est né, mais la maison qu'il a achetée en fait en revenant, hein, et où il a passé sa retraite et où il est décédé, où se trouve une petite plaque. Et à la sortie du village, un petit parc, un petit square avec un très joli buste du Clermont Roland. N'hésitez pas à vous y rendre. Ce musée est ouvert du 15 juin au 15 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, hors saison. Mmh. Et on vous ouvrira les portes volontiers. Vraiment, les gens sont charmants. Monsieur Rouquette est vraiment charmant. Appelez la mairie et voilà, ils vous dirigeront, ils vous donneront ses coordonnées. Mais je vous invite vraiment à y aller. Déjà, les monts d'Aubrac sont magnifiques. Monsieur Rouquette est adorable. Et le lieu est vraiment super.
Et ben on voilà. va y faire un tour, Vincent, grâce à toi. Et toutes ces informations, cette connaissance que tu partages avec nous tous les 15 jours sur CFM Rodez pour cette belle émission Mémoire Aveyronnaise. Est-ce que tu connais le programme de la prochaine en 15 jours ?
Oui. Alors là, nous sommes partis en Algérie.
Ouais.
On se rapproche, mais on sera pas en Aveyron, on sera tout près. Nous allons regagner le Tarn-et-Garonne et nous allons aller à Sept-Fonds.
Sept-Fonds. Il y a pas un régiment là-bas ?
Non, il y a pas un régiment. Il y a eu pendant la guerre un camp de prisonniers de républicains espagnols.
Ah.
Alors chronique aveyronnaise, là on n'est pas dans l'Aveyron, mmh. mais en fait je vous laisse la surprise. Si je parle du camp de Sept-Fonds, le camp de républicains espagnols, c'est que justement il y a un lien assez fort avec notre département de l'Aveyron.
Et cette histoire tu nous la raconteras Vincent Besombe dans 15 jours pour le prochain rendez-vous de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez. Merci beaucoup Vincent.
Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.